Bonjour à toutes et à tous. Salut, comme j'ai entendu. Nous reprenons aujourd'hui notre série de l'été sur les paraboles de Jésus, sur ces histoires ou ces images que Jésus raconte pour faire passer un message. Et comme nous l'avons lu à l'instant, eh bien nous parlerons aujourd'hui d'une des plus célèbres, la parabole du bon samaritain, que nous avons uniquement dans l'évangile de Luc. Alors j'imagine bien que beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Certains la connaissent même depuis l'école du dimanche. Et peut-être que les parents qui sont présents aujourd'hui l'ont déjà racontée à leurs enfants. Alors quel défi pour moi de prêcher sur un texte aussi connu. Et justement, l'extrait que nous avons lu ne se limite pas seulement à la parabole, mais également à tout le contexte dans lequel Jésus a raconté cette histoire. Et Jésus raconte cette parabole au cours d'un échange qu'il a avec ce professeur de la loi, qui est venu l'interroger. Et Luc précise qu'il est venu l'interroger pour le mettre à l'épreuve. Alors Jésus ne se défile pas devant de telles questions. Il va même amener cet homme à aller un peu plus loin dans sa réflexion concernant l'amour du prochain. Et je crois que cet après-midi, cela nous donne aussi l'occasion de réfléchir sur ce thème, le thème de l'amour du prochain. Et de nous demander si effectivement nous agissons comme le samaritain de la parabole. Et j'ajoute à notre méditation, même s'il fait un petit peu chaud, la question suivante. Pourquoi Luc, inspiré par le Saint-Esprit, évoque-t-il dans son évangile cet échange ? Pourquoi Luc, qui a le choix de raconter ce qu'il veut sélectionner de la vie de Jésus, pourquoi il décide au chapitre 10 de rapporter ce moment ? Eh bien, je vous propose d'étudier ce texte en trois temps. Et comme dans un bâtiment, nous allons passer par trois niveaux. Le premier niveau, la parabole elle-même. Comme Yuxas l'a évoqué il y a trois semaines, une parabole se lit dans son contexte. On n'étudie pas une parabole de Jésus comme on étudierait une fable de La Fontaine ou un conte des frères Grimm, comme si c'était une histoire isolée avec sa morale. Non, nous étudions les paraboles de Jésus dans leur contexte, dans la situation où ces paraboles ont été dites. Alors regardons précisément cette situation. Ce professeur de la loi qui connaît si bien les commandements de Dieu, qui a lu et étudié l'Ancien Testament, qui s'approche de Jésus et qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Si vous connaissez un petit peu l'évangile de Luc, quelques chapitres plus loin, au chapitre 18, un autre homme, très riche, posera la même question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Revenons à notre enseignant de la loi. Cet enseignant, eh bien, puisque c'est sa spécialité, Jésus renvoie cet homme à sa spécialité, la loi de Moïse. Et d'après la loi de Moïse, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle ? Deux choses. Aimer Dieu de tout son être, c'est ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, et aimer son prochain comme soi-même, Lévitique 19, verset 18. Ce sont ces deux choses qu'il faut faire pour avoir la vie. Et vous remarquez au verset 28 que Jésus acquiesce la réponse de son interlocuteur. Il est d'accord et il l'encourage à appliquer ses commandements. Fais cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi poursuit la conversation et il pose cette autre question. Qui est mon prochain ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question vous-même. Face à ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même, mais qui est mon prochain ? Et donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus répond à cette question et va raconter cette parabole que nous connaissons si bien. Non seulement il raconte cette parabole, mais il termine par une question. Et en fait, cette parabole, je ne vais pas m'étendre sur tous les détails, parce qu'elle est tellement claire que je n'ai pas expliqué tous les détails de l'histoire. Si vous racontez cette même histoire à un enfant et que vous posez la même question que Jésus, l'enfant saura répondre très facilement. Ce qui arrive à ce malheureux dans cette histoire du bon samaritain, ce qui arrive à ce malheureux qui va de Jérusalem à Jéricho, eh bien, n'a pas inspiré pitié chez le prêtre et le lévite. Le lévite étant cette personne qui sert également au temple. Par contre, Jésus fait intervenir un samaritain dans sa parabole. Et comme beaucoup de commentateurs l'ont relevé, dans cette parabole, c'est le personnage inattendu de l'histoire. Rappelons une nouvelle fois que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas très bien, et c'est un euphémisme de dire cela. Ils se détestaient mutuellement. Et bien sûr, Jésus avait conscience de cela. Et là où dans un contexte juif, on attendrait un juif comme personnage principal de l'histoire, eh bien Jésus choisit un Samaritain. Un choix qui, à mon avis, choquait pour l'époque. Et le comble, c'est que ce Samaritain réussit là où des hommes censés être consacrés à Dieu échouent. Ce Samaritain réussit là où des Juifs échouent. Nous observons également dans cette parabole que la moitié de la parabole est consacrée à ce que ce Samaritain fait pour l'homme qui a été victime des brigands. Voyez les détails que Jésus donne, versets 34 et 35. Le Samaritain va jusqu'au bout des soins qu'il peut apporter à cet inconnu. Le Samaritain est prêt à payer jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Et vous avez vu avec Dioxas également que souvent, la leçon principale de la parabole se trouve à la fin. Et c'est le cas ici. La leçon principale de cette parabole se trouve à la fin. Et après avoir interrogé le professeur de la loi sur qui est le bon prochain, Jésus l'exhorte à faire de même. Voilà la leçon du jour. Sois un bon prochain, comme l'a été le Samaritain dans la parabole. Ce personnage est fictif, mais toi qui vis dans la réalité, agis concrètement avec la même compassion. Agis concrètement avec la même bonté à l'égard de ceux qui ont besoin d'aide. Et nous devons prendre le temps cet après-midi de nous demander si nous sommes animés par le même amour que ce Samaritain. Si vous repassez en revue votre semaine, la semaine qui vient de passer, quelles actions se rapprocheraient le plus de ce que le Samaritain a fait pour l'homme à moitié mort ? De qui avez-vous pris soin sans compter ? Avouons-le, un tel dévouement met la barre très haut. Et même si nous avons bien agi envers notre prochain cette semaine, nous savons par le message de l'Évangile que ces actions ne nous sauveront pas. Même si nous avons été exemplaires durant cette semaine, cela ne nous sauvera pas. Jésus n'est pas en train de parler ici du salut par les œuvres. Le message de notre texte n'est donc pas « Fais comme le bon Samaritain et tu auras la vie éternelle ». Et si nous n'avions pas regardé le contexte de la parabole, on aurait toutes les bonnes raisons de penser que c'est ça le message du texte. « Fais comme le bon Samaritain et tu auras la vie éternelle ». Mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Alors maintenant, il nous faut prendre un peu de recul pour comprendre, pour saisir l'intention de Luc. Et j'en arrive au deuxième niveau. Et j'aimerais m'intéresser au professeur de la loi. Depuis le début, on a repéré que ce professeur de la loi ne venait pas à Jésus avec de saines intentions. Si on relit le verset 25, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Pour le mettre à l'épreuve. Est-ce pour prendre Jésus au piège dans ce qu'il est en train d'enseigner ? Est-ce que c'est pour le tester ? Pour vérifier que ce nouveau maître connaît bien la loi ? Nous ne savons pas. En tout cas, le début de cette conversation est une sorte de discussion entre théologiens. Que faire pour hériter de la vie éternelle ? Que faire pour être sûr d'entrer dans le royaume de Dieu ? Et c'est une question qui est centrée sur ce qu'il faut faire, sur ce que l'être humain doit faire pour être sauvé. Et plus tard, d'autres personnes ont posé ce genre de questions. Alors, j'ai déjà mentionné tout à l'heure l'homme riche de Luc 18. Que faire pour être sauvé? Et l'une des réponses que nous connaissons peut-être est celle que l'apôtre Paul a donnée au gardien de prison à Philippe, dans la ville de Philippe. Qu'est-ce que Paul a répondu au gardien de prison? Est-ce que vous vous souvenez? Que faut-il faire pour être sauvé? Qu'est-ce que Paul a répondu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais dans notre texte, Jésus ne donne pas cette réponse. Je pense que vous l'avez remarqué. Jésus ne donne pas cette réponse et montre plutôt que la loi dans l'Ancien Testament répond déjà à la question. Et la conversation aurait pu s'arrêter là. Mais voilà ce que Luc nous raconte au verset 29. Mais lui, le professeur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Voilà le véritable problème de ce docteur de la loi. Il se croit juste. Non seulement il connaît la loi de Moïse, mais il estime sans doute qu'il respecte déjà les commandements de Dieu. Un juif pieux à qui il n'y a rien à reprocher. D'ailleurs, c'est un enseignant de la loi. C'est son rôle de dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour mener une vie selon Dieu. Ce professeur de la loi n'a donc pas grand-chose à apprendre. Et à ses yeux, Jésus n'a fait que le renvoyer à ce qu'il connaît déjà. Pourtant, cette attitude de se justifier, c'est-à-dire de se donner raison, est condamnée par Jésus. Toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 14 et 15, nous lisons ceci. « En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui, lui étant Jésus. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. » Jésus condamne une telle attitude. Et un peu plus loin, au chapitre 18, toujours dans l'évangile de Luc, Jésus raconte une autre parabole qui met en scène un pharisien et un collecteur d'impôts qui sont en train de prier. Écoutez leurs deux prières et la conclusion de Jésus. Luc chapitre 18. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » La conclusion de Jésus, « Je vous le dis, lorsque ce dernier, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. » C'est intéressant de voir que dans l'évangile de Luc, il est autant question de cette attitude de se justifier, une attitude qui est condamnée. Et visiblement, le pharisien de cette parabole se considère comme juste devant Dieu, mais Dieu n'a pas du tout le même avis à son sujet. L'attitude qui est approuvée par Dieu est plutôt de se reconnaître pécheur et non pas de se reconnaître juste. Revenons à notre professeur de la loi, parce que c'est ce même travers que Luc est en train de souligner ici. Il voulait se donner raison, sous-estimant ce que Dieu exige vraiment de lui. Parce que, en réalité, les exigences de Dieu sont inatteignables pour des pécheurs. Je veux dire par là que cette exigence d'appliquer en toutes circonstances ce que Dieu commande est inatteignable pour des pécheurs. Il est impossible pour nous d'obéir à Dieu en toutes circonstances, sans exception. Et dans ce sens, Jésus montre à ce professeur de la loi par l'exemple du Samaritain, qu'il n'a pas encore bien compris ce qu'est l'amour du prochain. Il y a des lacunes dans sa mise en pratique. Et permettez-moi de demander aussi, sommes-nous semblables à ce spécialiste de la loi ? Est-ce que nous sommes arrivés au stade où nous pensons ne plus avoir de progrès à faire dans notre vie chrétienne ? Je connais les commandements du Seigneur et je les applique. Je connais bien la Bible et je n'apprends rien de nouveau. Mais qu'en est-il de notre mise en pratique ? Est-ce que nous nous mettons aussi parfois, comme le spécialiste de la loi, à nous justifier devant Dieu ? À nous considérer comme justes devant Dieu ? C'est à Dieu de nous justifier, pas à nous. Et avant d'arriver au troisième niveau, prenons juste ce moment pour examiner notre cœur devant Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre quelques secondes pour cela. Ai-je cultivé cette tendance à me croire juste en oubliant que c'est Dieu qui me déclare juste à cause de Jésus-Christ ? Je vous laisse juste ce moment pour que nous puissions examiner notre cœur. Ai-je cultivé cette tendance à me croire juste ? Après nous être intéressés à la parabole, premier niveau, au professeur de la loi, deuxième niveau, prenons encore du recul pour nous focaliser sur le personnage principal de l'évangile, Jésus, notre Seigneur. Parce que c'est bien sa vie, de sa naissance à son ascension auprès du Père, que Luc nous rapporte dans l'évangile. C'est bien lui, Jésus, qui a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem pour mourir et ainsi se sacrifier pour nous sauver. C'est ce que nous lisons dans Luc, chapitre 9, donc un chapitre avant notre texte, verset 51. Et les commentateurs discernent qu'à partir de ce moment-là, Luc 9, 51, à partir de ce moment-là, nous avons une partie centrale dans l'évangile de Luc, où Jésus chemine vers Jérusalem, entouré de ses disciples. Une partie centrale qui va jusqu'au chapitre 19. Et c'est dans cette partie que Jésus apprend à ses disciples à le suivre, que Jésus leur apprend à être ses disciples. Et parmi la foule, parmi les villes qu'ils traversent, certains acceptent le message que Jésus est venu apporter et d'autres le rejettent. Et dois-je mentionner qu'il en est de même aujourd'hui ? Certains acceptent son message, d'autres le rejettent. Et juste avant notre texte, dans les versets qui précèdent notre texte, Jésus est rempli de joie, car le message du royaume de Dieu atteint les petits de ce monde, et non pas les sages, non pas ceux qui se croient tout suffisants. Et dans ce dialogue avec le professeur de la loi, Jésus ne répond pas à sa question « Qui est mon prochain ?» Mais Jésus demande « Qui a été le bon prochain ?» dans l'histoire. Jésus amène ce spécialiste de la loi à se poser les bonnes questions plutôt que de se donner raison. Et assurément, l'amour du prochain est plus exigeant que ce qu'il pensait. Et nous savons par les témoignages de l'époque que les Juifs avaient une compréhension restreinte du commandement d'aimer son prochain. Parce que lorsqu'on reprend le texte de Lévitique 19, verset 18, dans le contexte, le prochain est en effet le membre du peuple d'Israël. Aime ton prochain, c'est donc aime celui qui fait partie de ton peuple. Cependant, si on continue de lire ce même chapitre 19, eh bien, quelques versets plus loin, Dieu commande aussi d'aimer l'étranger comme soi-même. Donc, finalement, qui est mon prochain ? Est-ce que c'est celui qui fait partie de mon peuple, ou bien est-ce que c'est l'étranger ? Qui est mon prochain ? Donc la question se posait vraiment à l'époque. Et comme nous l'avons dit, En mettant en scène un Samaritain, Jésus renverse les idées reçues. Et il montre que l'amour du prochain ne se limite pas à ses compatriotes. Le docteur de la loi doit revoir sa définition du prochain. C'est vrai que cette parabole illustre très bien ce que signifie aimer son prochain. Mais Jésus, dans cette humanité qu'il a partagée avec nous, a aimé son prochain d'une manière qui va plus loin que le Samaritain. Jésus nous a aimés au point de donner sa propre vie d'homme juste pour les hommes et les femmes injustes que nous étions. C'était sa mission. C'était la raison d'être de son incarnation. Et comme nous le commémorons à chaque sainte scène, il a livré son corps et son sang pour subir le châtiment de Dieu, ce châtiment que nous méritions. Et à cause de nos manquements, entre autres, en matière d'amour du prochain. Jésus-Christ est mort pour des pécheurs, sans que nous le méritions. Et tout l'évangile de Luc nous décrit comment Jésus a vécu et ce qu'il a fait pour le salut des hommes. Et c'est dans ce contexte plus large que nous devons aussi lire notre texte. Où en es-tu dans ton programme de l'été ? J'en ai parlé un petit peu avant de partir en vacances. Où en es-tu dans ton programme de l'été ? Cherches-tu à ressembler plus à Jésus ? En tant que chrétien, c'est son exemple à lui que nous devons rechercher. Et peut-être qu'en lisant cette parabole, tu te dis que tu n'es pas quelqu'un de très compatissant. Regarde combien Jésus était compatissant. Regarde combien Jésus était ému par notre situation misérable, au point de s'abaisser jusqu'à la croix. Prie Dieu qu'il t'accorde de la compassion pour celles et ceux qui sont sur ton chemin, pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont besoin d'aide. Si tu n'es pas quelqu'un de très compatissant, demande au Seigneur qu'il puisse t'accorder une telle compassion. Peut-être qu'un collègue, un ami ou un membre de la famille vit une situation compliquée en ce moment ou sollicite ton aide, sollicite ton temps, sollicite ton argent. Quel genre de prochain seras-tu pour lui ? Ton cœur est-il encore ému de compassion quand tu vois des mendiants ? Quand tu vois des nécessiteux dans ton quartier ou dans les transports en commun ? Est-ce que ton cœur est encore ému par ça ? Ou est-ce que tu as perdu toute compassion ? Que le Seigneur t'accorde, nous accorde, la sagesse et l'amour pour être un bon prochain et pour être un bon gestionnaire de nos biens. Et avant de partir en vacances prochainement, si certains d'entre nous partent bientôt, eh bien, demande à Dieu de préparer ton cœur à aimer ton prochain, comme Jésus a su aimer son prochain. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare. Et si nous laissons son esprit agir en nous pour changer ce qu'il y a à changer en nous, il fera de nous de bons prochains. Il fera de nous de bons samaritains. Nul d'entre nous ne peut répondre parfaitement aux exigences de Dieu. Un seul a pu le faire, c'est Jésus, notre Sauveur. Et oui, c'est sur lui que nous comptons pour notre salut et non sur nos œuvres. Et c'est avec son esprit qu'un tel amour pour notre prochain est possible dans notre vie. Et voici un exemple parmi d'autres de la vie d'une personne qui a été transformée par Christ et par le message de l'Évangile. Mathilda Vred, c'est le nom de la personne, a vécu au XIXe siècle en Finlande. Elle était issue d'une famille noble. Elle s'est tournée vers Christ à l'âge de 19 ans lors d'une conférence donnée par un évangéliste. Et quelque temps après sa conversion, eh bien, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, un détenu est venu réparer une serrure chez elle. Donc c'était chose courante à l'époque, des détenus venaient rendre des services. Et à ce détenu, elle lui a parlé de sa conversion. Et c'est là que ce détenu l'a encouragé à venir en parler en prison. Il faut que d'autres entendent ce que Mathilda a vécu. Et c'est ainsi qu'a commencé son ministère d'évangéliste auprès des prisonniers de Finlande. Et je vous laisse imaginer le contraste. Une jeune femme qui vient annoncer l'évangile et des durs à cuire qui pourtant se laissent toucher par cette démarche. Et ses visites dans les prisons lui ont causé parfois des soucis de santé. Et voici ce qu'elle écrit à ce sujet, et c'est ce qui m'a particulièrement touché dans son témoignage. Voici ce qu'elle écrit. « Mon corps se brisera peut-être, mais peu importe, pourvu que les autres en reçoivent une bénédiction. Ma vie, mes pensées, mon temps, mes forces, tout pour Dieu et pour les âmes des hommes. Ma vie, mes pensées, mon temps, mes forces, tout pour Dieu et pour les âmes des hommes. » Et je vous raconte ce témoignage pour vous montrer que c'est vraiment ce que Dieu peut produire en nous. Ce n'est pas juste le témoignage d'une femme qui a vécu à une autre époque. C'est vraiment ce que Dieu peut faire en nous. Un amour débordant pour lui et pour notre prochain. Et si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne croyez pas à l'Évangile. Je demandais au début de cette prédication pourquoi Luc, inspiré par le Saint-Esprit, a choisi de mettre cet échange entre Jésus et le docteur de la loi dans son évangile. Parce que c'est le seul à en parler. Si vous lisez les autres évangiles, vous ne trouvez pas cet épisode. Eh bien, peu à peu, nous avons répondu à cette question, en cernant mieux le contexte de la parabole du bon samaritain. Parce que Luc montre comment Jésus interpelle ce spécialiste de la loi qui a encore du chemin à faire. Et il l'interpelle par cette parabole. Ce spécialiste de la loi qui doit encore se remettre en question. Et bien souvent, nous avons aussi besoin de nous remettre en question. L'amour du prochain est bien plus exigeant, plus coûteux qu'on ne le pense. Si vous pensez que vous avez déjà obéi à ce commandement, eh bien, la parabole du bon samaritain vous rappelle que vous êtes encore loin. Et sur le chemin qui le mène à Jérusalem, Jésus s'est préparé à démontrer son amour pour nous. Un amour pas seulement pour un seul prochain, mais pour tous. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, pour ses compatriotes, mais aussi pour les non-Juifs. Alors que son amour, ce merveilleux amour, que son amour inspire nos actions cette semaine à l'égard de notre prochain. C'est ma prière pour nous tous. Amen. Je vous invite à la prière. Nous te louons, notre Père, parce que ta parole est la vérité et que nous avons besoin d'entendre la vérité. Nous avons besoin d'entendre la vérité à notre sujet, par rapport à nos tendances qui parfois vont dans le même sens que ce spécialiste de la loi. Oui, parfois nous nous justifions devant toi et devant les hommes. Et nous avons tort de le faire, Seigneur, parce que combien nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu nous demandes. Combien, lorsqu'il s'agit de t'obéir, parfois nous faisons tout le contraire. Et c'est pour cela que nous te demandons encore, Seigneur, accorde-nous de pouvoir être changés par toi. Transforme-nous, Seigneur. Accorde-nous la compassion qui nous manque, la bonté qui nous manque à l'égard de notre prochain. Et lorsque nous pouvons voir la misère de ce monde, Seigneur, accorde-nous d'être compatissants, de nous laisser toucher encore par tant de souffrance, par tant de misère autour de nous. et parfois dans notre entourage le plus proche. Et ma prière, c'est que tu nous accordes à chacun aussi de pouvoir développer cet amour du prochain, d'être un bon prochain pour l'autre, tel que l'autre pourrait s'y attendre. Merci Seigneur, parce que toi, tu nous as tendu la main. C'est toi qui es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher pour nous transformer, pour que peu à peu, nous puissions devenir de bons samaritains. Mais nous avons encore besoin de ton aide pour cette semaine, pour les semaines d'après, pour les mois, les années à venir. Oui, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous changes encore et que tu nous permettes de pouvoir, à l'image de Jésus, toujours mieux aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toutes les forces, tous les efforts que nous pouvons déployer dans tout ça, eh bien, nous pouvons compter sur toi, sur le fait que toi, tu nous soutiens, sur le fait que tu prends plaisir lorsque nous marchons sur le chemin de l'obéissance. Et nous demandons simplement ton aide encore et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.